Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui.
Bonjour, c'est pas faute d'avoir essayé d'y avoir laissé de l'énergie, hein, mais nous n'avons pas pu voir Dans la brume avec Romain Duris. On n'a pas pu voir non plus le dernier Gus Van Sant, mais on a quand même vu pas mal de choses. Bonjour Marine.
Et oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors qu'est-ce qu'on a vu du coup ?
Eh bien moi, je vais vous parler de Red Sparrow, je vais vous parler de la mort de Staline et je vais vous parler d'une ressortie, un programme de 3 courts-métrages qui s'appelle La Révolte des Jouets.
Alors autant de films qui sont dans les salles depuis le 4 avril. Et toi Manu, t'es retourné dans le passé plutôt.
Avec le nouveau Spielberg, Ready Player One, et puis je vous parlerai de Carnivore.
Et parler de Spielberg, eh bien, ça donnera l'occasion de jouer un blind test spécial Steven Spielberg. Bon, ce sera facile forcément parce que je pense qu'on connaît bien tous les titres du grand maître américain. Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai de Mobile Home, un premier film français de Vladimir de Fontenay. Et puis un film assez étonnant, film cubain de Johnny Hendrix Inestrosa qui s'appelle Candelaria. C'est Cinérama qui débute maintenant.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
On m'a demandé d'attirer un homme dans un hôtel. Il disait que c'était un ennemi de l'État.
Retire ta robe.
Et en échange, ma mère aurait eu les soins dont elle avait besoin. Au final, ils l'ont égorgé. Il ne devait y avoir aucun témoin. Alors, ils m'ont donné le choix. Mourir. Ou devenir la moineau.
Ouh là là, mais que va-t-elle choisir ? Donc on commence avec Red Sparrow, dans lequel Jennifer Lawrence interprète Dominica, une jeune étoile du ballet du Bolshoï qui perd sa place suite à un accident. Mais comme nous allons rapidement l'apprendre, il n'y a jamais d'accident dans la vie. Et tout cela fait partie d'une machination ourdie par son oncle, Matthias Schoenaerts, parfaitement inquiétant, qui compte lui faire intégrer une école secrète, destinée donc à former les moineaux. Alors les moineaux, ce sont des agents secrets russes, surentraînés à la manipulation psychologique et à la séduction, Dominica devient rapidement l'une des meilleures et se retrouve sur la plus dangereuse des missions.
À compter de ce jour, vous serez des moineaux. Des armes dans une lutte mondiale pour le pouvoir. Vous serez formés à la manipulation psychologique. Vous devrez apprendre à aller au-delà de tous vos interdits. Déshabillez-vous. Quand nous en aurons fini avec toi, la personne que tu étais n'existera plus. Tout être humain est une mosaïque de besoins. Vous devez devenir la pièce manquante. Et ils vous diront tout.
Tu leur appartiens. Ils ne te laisseront jamais partir.
Je trouverai un moyen.
Alors pour cette quatrième collaboration entre Francis Lawrence, réalisateur de Hunger Games, avec Jennifer Lawrence, veuillez laisser votre sens critique et votre envie de véracité à l'entrée du cinéma, car le scénario, bien qu'adapté d'un roman écrit par un ancien agent de la CIA, est, tout comme son actrice pendant le film, un peu tiré par les cheveux. Non, dans la vraie vie, hein, on ne choisit pas comme agent secret une grande blonde très belle que tout le monde remarque et qui a été une star de la danse. Hein. Et non, un agent secret n'a pas non plus une frange qui reste parfaitement en place lorsqu'elle se bat, j'en sais quelque chose. Pas parce que je suis agent secret, mais parce que j'ai une frange.
Parce que tu te bats.
Avec ma frange, et elle ne reste pas en place. Alors voilà, une fois ces petits arrangements avec la réalité effectués, oui, on peut entrer de plein pied dans un film d'espionnage très efficace, à l'intrigue bien tordue et à la distribution grandiose. On compte quand même dans les seconds rôles Charlotte Rampling, qu'on a entendu tout à l'heure, et Jeremy Irons. Le film assume totalement son côté bise, voire un peu ringard, en surfant notamment sur ce fantasme un peu relou mais très cinématographique hein, qui voudrait que toutes les belles femmes soient des manipulatrices en puissance. Alors un petit bémol néanmoins, le film qui se voudrait sombre et sexy tombe souvent dans le voyeurisme en proposant un nombre un peu excessif de viols, de tortures et de meurtres sauvages, comme si les scénaristes étaient partis du principe que le public masculin avait très envie de voir Jennifer Lawrence souffrir pendant 2 heures. Et ça, c'est quand même un petit peu dérangeant. D'ailleurs, toutes mes félicitations à ces mêmes scénaristes qui ont trouvé pas moins de 23 prétextes différents pour mettre l'actrice à poil. Il fallait quand même le faire. Alors Red Sparrow fait penser à Atomic Blonde, l'humour en moins. En tout cas, il est une nouvelle preuve du revival des films d'espionnage, mais au féminin. Et quand en plus ils sont réussis, bah, et on est content, hein, ma foi. Donc allez le voir, surtout qu'en plus Jennifer Lawrence ne va pas tarder à mettre sa carrière d'actrice entre parenthèses pour faire de la politique, donc il faut en profiter maintenant.
Elle va se rhabiller donc, c'est ça.
Oh
et ce qui est étonnant, c'est que là, il y a l'histoire des moineaux et il y avait le Merle Moqueur dans Hunger Games. Elle reste dans des rôles où...
Et en plus, c'est le même réalisateur, du coup.
Eh oui. Voilà, c'est un film qui est en salle depuis le 4 avril et c'est le cas aussi de Candelaria, mais un film qui n'a pas les mêmes ambitions.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Alors, quand je vous avais demandé qui voulait voir Candelaria, j'avais parlé d'un film qui apparaissait au premier abord lumineux, au sens propre comme au sens figuré. Et je ne me suis pas beaucoup trompé hein, dans ce film réalisé par le Colombien Johnny Hendrix Inestrosa. Drôle de nom. Ce film est animé de fantaisie et en plus, il se passe sous les tropiques. Voilà. Alors, nous sommes à Cuba, dans le milieu des années 90. Le mur de Berlin est tombé et avec lui, eh bien, le ravitaillement en nourriture venant du bloc soviétique. Alors, ne reste que l'embargo américain comme horizon. C'est pas très gai. Les Cubains traversent une crise sans précédent en écoutant les blablas de Fidel Castro qui arrivent chaque jour par la radio. Le réalisateur colombien nous place à cette période avec Candelaria et Victor Hugo. C'est un prénom d'emprunt, évidemment. Un couple qui a plus de 70 ans et qui en a certainement vu d'autres. Elle travaille dans la blanchisserie d'un hôtel pour touristes et pousse la chanson dans un club le soir venu, encore pour les touristes quand ils veulent bien se déplacer. Et lui, eh bien, il est lecteur de la presse gouvernementale dans une usine de cigares, tandis que les autres travaillent, eh bien, lui, il lit les nouvelles qui ne fâchent pas à ses collègues à voix haute. Et ça motive les camarades. Donc ainsi allait la vie à Cuba, où la population était quand même touchée par la malnutrition.
Hasta mañana, Candelaria.
Le projet de Johnny Hendrix Inestrosa est osé. Alors, je fais une petite assonance. Les temps sont durs à Cuba et l'on voit un couple dont l'amour se finit. Alors, ce n'est pas qu'il s'épuise, car on sent les deux amants très proches, mais compte tenu de l'orage, eh bien, les choses se gâtent quelque peu pour eux. On les voit dans leur quotidien, elle qui élève clandestinement des poussins, lui qui fait son trafic de cigares en crachant un peu ses poumons. Chacun s'arrange avec l'idéologie du régime. Ils se parlent comme ils se sont toujours compris, sans dire grand-chose, mais avec beaucoup de tendresse ou d'à-propos. Coupeur de courant, discours de Castro, lustre géant qui menace de s'écrouler au-dessus du lit à chaque instant, le réalisateur filme l'intérieur du couple qui devient l'image qu'on se fait du pays, surtout à cette époque. Mais le réalisateur n'oublie pas non plus de montrer ce qui va bien. La fraternité au baseball, le système de santé et l'école pour tous, ou encore eh bien, la musique si caractéristique de Cuba. Sauf que rien ne ressemble à une carte postale, mais rien non plus à une chronique sociale misérabiliste. Le film prend de savoureux détours quand Candelaria, qui donne son titre au film, trouve, on va dire, a dans ses mains plutôt une caméra vidéo appartenant à des touristes. Alors s'il figure des images de vacances et de plages sur cette bande vidéo, eh bien le couple va faire un tout autre usage de cet appareil, faisant naître un désir que le couple croyait sûrement enfoui. Le film prend alors un tournant, cette caméra va devenir l'objet tour à tour eh bien, d'un amusement, d'une liberté, d'un questionnement, d'un enfermement et d'un avilissement. Ça n'est pas la partie la plus lisible du film et on se fiche pas mal au bout d'un moment de la vraisemblance de certaines scènes. On ne conserve qu'une chose, le portrait de ce vieux couple qui lutte toujours avec fantaisie contre le destin, avec quelle douceur aussi le réalisateur les entoure. Mélodrame social, comédie, le film oscille comme un cœur fatigué, l'image finale est saisissante et nous convainc qu'on n'a pas perdu notre temps à suivre ces deux personnages admirablement incarnés par Veronica Lynn et Alden Knight, qu'on ne connaît absolument pas, je pense, ici. Le comédien eh bien, en a remplacé un autre qui est malheureusement mort pendant le tournage et à qui ce film précieux est dédié. Candelaria de Johnny Hendrix Inestrosa, donc petit film, est dans les salles depuis le 4 avril. Ça n'a rien à voir avec le dernier Spielberg qui va sans doute cartonner.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
En 2045, il n'y a nulle part où aller. Nulle part, sauf l'Oasis.
Alors, 2 mois après le formidable Pentagon Papers, hein, Spielberg revient à nouveau en pleine forme avec Reader Player One, hein, adaptation du best-seller éponyme d'Ernst Klein, roman truffé de références à la pop culture des années 80 essentiellement, et notamment au cinéma de l'auteur D.T. Hein, logique dans ce cas que le cinéaste s'empare de cet univers nostalgique lui permettant de livrer une sorte de film somme et non testamentaire, hein, il n'a que 71 ans, une sucrerie vintage visant à satisfaire un public de quarantenaires ayant grandi avec les jeux vidéo d'arcade, la New Wave, Van Halen, les comédies pétillantes de John Hughes et j'en passe. Alors même si, pour ne pas paraître élitiste, hein, les jeunes générations ne sont pas mises sur la touche avec des allusions, paraît-il, hein, parce qu'on me l'a dit, à de nombreux jeux vidéo contemporains. Mais je n'étais pas tellement au courant, donc je l'ai avec quelqu'un de plus jeune qui m'a initié. Voilà. Alors l'histoire sur fond de réalité virtuelle, elle est excitante et rappelle même vaguement, en plus formatée, celle de l'excellent Strange Days de Catherine Bigelow. Nous sommes donc plongés en 2045, le monde réel est au bord du chaos, la dérive du capitalisme a atteint une sorte de point culminant au bord de la rupture, les riches sont très riches et les pauvres très pauvres. Une situation tout à fait plausible, voire même lucide, introduit ce thriller d'anticipation dystopique. Alors pour fuir un réel asphyxiant, les êtres humains se réfugient dans l'Oasis, univers virtuel conceptualisé par une sorte de génie associable, l'excentrique James Halliday. Avant de disparaître, ce dernier s'est fendu d'un dernier tour de passe-passe iconoclaste. Hein. Il a décidé de léguer son immense fortune à celui qui découvrira l'œuf de Pâques numérique dissimulé dans l'Oasis. Alors pour cela, il faut découvrir 3 clés et autant d'énigmes. Alors l'appât du gain provoque une compétition planétaire, surtout de la part de Nolan Sarento, le méchant du film, via sa société Industrie. Voilà. Ah oui. Le méchant de l'histoire prête à tout pour éliminer le moindre concurrent sur son chemin, mais c'est sans compter sur le jeune orphelin, Wade White, via son avatar Parsifal, qui va tout faire pour trouver l'œuf par admiration pour Halliday. Il est aidé, comme au bon vieux temps des Goonies ou D.T., par une joyeuse bande de mômes frondeurs.
Ils appellent notre génération les millions de portées disparues. Disparues, pas parce qu'on est parti quelque part. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. C'est le seul endroit où j'ai l'impression d'être quelqu'un. Un monde où les limites de la réalité sont celles de notre imagination.
On voit très bien ce qui a pu intéresser Spielberg dans Reader Player One, au-delà du fait de rappeler à tous ses concurrents, J.J. Abrams en tête, qu'il est le maître ayant inventé une façon de concevoir le cinéma, on va dire pop-corn, durant quelques décennies à travers des divertissements virevoltants, naïfs et sincères. Alors le papa d'Indiana Jones est avant tout un auteur, en dépit de tout ce que peuvent avancer ses détracteurs encore très nombreux. Alors oublions un peu la réflexion sur le virtuel, plutôt bien pensante, voire même très conventionnelle, pour s'attacher à cette obsession qui nourrit les plus grands films du cinéaste, la quête du père. Alors nous sommes tous des orphelins à la recherche de cette figure qui nous hante, qui nous manque, qui nous oblige à avancer. Le jeune héros n'est évidemment pas intéressé par les 500 milliards à la clé, ni pour sauver le monde du désastre si Sorrento devait s'emparer de cet empire financier. Alors son seul désir, même inconscient, est de trouver une figure paternelle à travers celle de Halliday, qui est pourtant un inadapté, un ado attardé dans le corps d'un adulte. De son vivant, il était même déjà une forme d'avatar organique. Alors le père, chez Spielberg, n'est pas forcément garant d'une autorité naturelle, il ne représente rien de rassurant, il incarne juste le manque, un affect émotionnel que l'on retrouve dans 80% des films du cinéaste, de Rencontre du troisième type à Indiana Jones, en passant par Minority Report ou Empire du Soleil. Halliday est un génie solitaire qui aura attendu la fin de sa vie pour comprendre qu'il est passé à côté de la sienne. Alors tout le récit s'articule autour de cette idée, de cette transmission d'un héritage qui n'a rien à voir avec la fortune, mais la compréhension du monde et de soi. Et au fond, Reader Player One est un beau film existentialiste mis en scène avec une élégance absolue. Les scènes d'action s'enchaînent à un rythme trépidant, au cœur d'un récit fluide alimenté par ses innombrables références et un humour souvent bienvenu. Et rien que pour la séquence où Spielberg rend hommage à son père spirituel, hein, Stanley Kubrick, le film mérite toute notre attention. En dépit d'un dispositif esthétique saturé de couleurs criardes, d'effets numériques parfois encombrant et de décors clinquants, cette course-poursuite à l'intérieur d'un monde factice est passionnante. Cette récréation ludique et cinéphilique où se croisent Freddy, le géant de fer, Breakfast Club, Retour vers le futur, est néanmoins sous-tendue par une angoisse réelle vis-à-vis de la toute-puissance de la technologie comme fin en soi. Alors Spielberg n'oublie surtout pas l'essentiel, raconter une histoire, une évidence oubliée depuis longtemps dans 99% des blockbusters contemporains. Alors il lui manque juste peut-être un peu d'émotion pour atteindre moi un des films que je préfère de Spielberg qui est Intelligence Artificielle.
Alors, sera-t-il ce film dans le blind test qu'on vous propose tout de suite ? Il y a 5 extraits, il faut les écouter, il faut trouver forcément les titres. On commence, c'est très facile.
Je sais bien qu'il y a urgence. Pour faire appliquer le touriste, vu que le Pékin, il met du beurre dans le plat d'épinards. Mais ce sera tout, sauf de la rigolade. Ma peau, elle vaut davantage que 3 000 $, pas vrai, chef ? Pour 3 000 $, je vous le trouverai. Mais pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra.
Alors, c'est trouvé.
Oui, c'est Les Dents de la Mer et ça doit être la voix de Robert Shaw.
Film de 75, plus de 6 millions de spectateurs en France. Deuxième extrait.
Nous scannons par le moyen de la tomographie optique. De minuscules points lumineux courent sur toute la longueur du couvre-chef et sont relus après absorption par le tissu cérébral. En d'autres termes, nous voyons ce qu'ils voient. Ils ne ressentent aucune douleur. Nous leur bourrons le crâne de dopamine et d'endorphine. De plus, nous maintenons un contrôle attentif sur leur niveau de sérotonine. On ne veut pas qu'ils tombent dans un sommeil trop profond. On ne peut pas non plus les garder éveillés.
Il vaut mieux ne pas les considérer comme des humains.
Et non, et donc c'est trouvé facile.
Minority Report.
Eh oui. Film de 2002 avec presque 4 millions d'entrées. Troisième extrait.
Votre fils s'est fait passer pour un professeur remplaçant. Il leur a fait cours, il leur a donné des devoirs. Madame Glasser était souffrante et il y a eu confusion avec la vraie remplaçante. Votre fils a tenu une réunion de parents d'élèves avant-hier et il a annoncé à la classe qu'elle irait voir un spectacle de flamenco dans le cadre d'une sortie scolaire. Vous voyez le problème que nous avons.
Petit problème de mythomanie, on va dire. Alors, c'est quoi ?
Attrape-moi si tu peux.
Oui.
Avec Leonardo DiCaprio.
Oui. Film de 2002 avec 3 600 000 entrées. Quatrième extrait.
On se doute jamais de rien. On se méfie jamais de rien. On se contente de rouler sa bosse en pensant que certaines choses sont immuables. Comme le fait de pouvoir rouler tranquillement en voiture sans qu'un inconnu cherche à vous tuer. Et puis un jour, il vous arrive un truc idiot. Un événement qui n'occupe que 20 à 25 minutes de votre vie, mais qui suffit à briser tous les liens qui vous rattachaient à votre univers. Et c'est comme si, tout à coup, vous vous retrouviez comme un homme primitif dans la jungle.
Alors, petit indice, c'était rouler sans se faire tuer.
Oui, alors c'est étrange parce que je l'ai vu, à mon avis, il y a 2 VF.
Ah, c'est possible, oui.
Parce que je l'avais vu dans sa version télé en VF, après je l'ai vu en VO évidemment dans la version cinéma.
Après, ressorti dans les salles, voilà. Donc, film de 71, ressorti dans les salles en 73, un peu plus de 600 000 entrées. Dernier extrait, c'est extrêmement facile.
C'est ici. C'est ici que Forrestal a été tué.
Un de vos amis ?
Un concurrent, un grand archéologue. Et il était fort, très fort.
Seigneur, personne n'est sorti d'ici vivant. N'y allez pas.
Oui, c'est trouvé, c'est...
Et Les Aventures de l'Arche perdue, et il me semble que c'est l'ouverture du film.
Ah, c'est possible. Je m'en souviens plus trop, mais en tout cas, c'est, de tous ces films, c'est celui qui a conquis le plus de spectateurs, plus de 6 millions, presque 6 400 000. Ainsi s'achève ce blind test spécial Steven Spielberg. Maintenant, eh bien, on va du côté de la comédie anglaise.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Ok, alors donc si je vous dis 5 mars 1963... Vous me répondez ?
Comme on a préparé l'émission, je vais dire la mort de Staline.
Eh bien non, pas du tout, c'était la date de naissance de ma mère. Oui, bon d'accord, c'était bien la mort de Staline. En tout cas, Manu n'a pas trouvé, on voit qu'il y a un social traître à cette table. Bref, après Red Sparrow, la mort de Staline, c'est le deuxième film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui se passe en Russie, mais interprété par des comédiens qui parlent anglais avec un accent russe, en roulant les airs, naturellement. Alors, l'histoire, eh bien, la nuit du 28 février 1963. La nuit du 28 février, Staline, le tyran qui tient l'Empire soviétique sous sa coupe depuis des années, fait un malaise. Immédiatement, ses proches se rejoignent à son chevet. Problème, Staline a liquidé tous les médecins de Russie, persuadé qu'ils allaient l'empoisonner. Personne, donc, pour le soigner. Et la situation empire. Dans la nuit du 5 mars, Staline décède pour de bon. Ce qu'il s'est dit dans cette chambre mortuaire transformée en cellule de crise, nul ne le sait. Mais ce qu'il s'y est comploté, le film tente de le retracer. Entre le chef des armées, le secrétaire d'État, les enfants dégénérés du tyran, chacun tente de se poser en sauveur de la Russie pour devenir le prochain Staline. Tout est permis, coup d'État, magouille, voire meurtre. Adapté d'une bande dessinée française, La mort de Staline, hein, du même nom, cette valse des égaux en huis clos est mise en scène par le camarade Armando Landucci qui en fait une quasi-pièce de théâtre, animée par de grands numéros de comédiens avec Steve Buscemi, Paddy Considine, etc. Bon, par contre, si vous êtes fait avoir par la bande-annonce et que vous venez pour voir Olga Kurylenko, vous allez être déçu. Elle a environ 1 minute 30 d'apparition à l'écran, dispatchée sur tout le film. Elle n'est là que pour adoucir un peu toute cette testostérone et pour ameuter le chaland. En tout cas, le film est très drôle. C'est une vraie satire, intelligente, fine, grotesque, parfois toujours féroce. C'est également, on ne peut plus, tragicomique. Hein. Nul aspect glauque et dramatique du régime stalinien n'est éludé. L'amour inébranlable de son peuple qu'il a pourtant tyrannisé, les rafles, les exécutions sommaires et la paranoïa autour des écoutes. Eh bien, tout cela devient le matériau d'un humour extrêmement pince sans rire, très anglais finalement. Et eh bien, allez savoir pourquoi le film est interdit en Russie. On ne sait pas pourquoi. Ah, non, oui. Mais en tout cas, eh bien, nous profitons-en, allons le voir. Il est vraiment très réussi et très drôle. Et puis, c'est ce qu'on demande à une comédie, ma foi.
Parce qu'il s'en prend donc à des symboles nationaux russes. C'est comme ça que se sont défendues les autorités. On passe à un autre film qui sort le 4 avril. C'est Mobile Home de Vladimir de Fontenay.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Présenté il y a presque un an à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, Mobile Home de Vladimir de Fontenay arrive enfin sur les écrans. Et après être sorti de la projection cannoise, un brin déçu, tandis que mon entourage immédiat se délectait d'une telle pépite, j'ai dû m'y reprendre à deux fois pour trouver quelque chose à dire de ce film qui a tout de suite l'allure d'un film indé américain taillé pour les festivals, à ceci près que Vladimir de Fontenay est français et qu'il a tourné son film dans le grand froid canadien. Mobile Home est le prolongement en fait d'un court métrage écrit sur la fascination des mobile homes, ces grands ensembles mobiles qui portent en eux bien deux idées contradictoires finalement, la maison et la liberté de mouvement. Mais même si on ne voyage pas en mobile home, comme on voyage en camping-car, ce logement offre une perspective contrastée et c'est ce contraste qui caractérise les personnages de ce premier film, le désir de liberté et celui d'un foyer. Ali et Evan, même pas 30 ans, sont à la marge, ils sillonnent les routes des États-Unis et du Canada par moins 30 en vivant de trafic et n'hésitent pas à y mêler Bone, le petit garçon d'Ali qui lui n'a que 8 ans. Entre les combats de coqs, les effractions, les au basket, le jeune garçon, qui n'est bien sûr pas scolarisé, a quelques responsabilités à défaut d'avoir beaucoup d'attention. Et dans cette première partie du film, fait de promiscuité et de débrouille avec un zeste de passion charnelle, la mise en scène en caméra épaule accompagne l'urgence des personnages. Cette vie pas forcément choisie est de plus en plus compliquée à tenir quand même. Aussi s'ouvre une seconde partie qui va écarter cette jeune mère du déterminisme social. On la retrouve avec son fils, entourée par une figure paternelle plus rassurante, celle d'un gérant de mobile home. C'est le moment des choix, mais dans ce film tourmenté, rien n'est simple et le réalisateur se joue des contrastes. La famille, dans la première partie, glisse vers la relation mère-fils dans la seconde. L'omniprésence du froid laisse place à des images plus solaires dans la seconde. La figure du rêve américain écorché se transforme en main tendue et la figure de la liberté et de l'urgence regarde la bienveillance et l'appel du foyer, du travail et du repas qu'on prend à une heure régulière. Le réalisateur se tire très bien de l'histoire, on ne peut plus simple qu'il mette en place et grâce à un solide découpage et des images réussies, on écoute d'ailleurs Vladimir de Fontenay.
Comment est-ce que je raconte ce que je raconte si je peux le raconter qu'avec la caméra ? Et du coup, c'est toujours se poser la question, si on coupe le son, si on éteint les lumières, qu'est-ce qu'on regarde et comment on le regarde ? Et ça, je trouve ça c'est assez super parce que du coup, on est dans une liberté totale et on est vraiment dans le regard. Et du coup, il y avait des moments où on ne savait pas, où tout à coup, il y avait un décor qui changeait, il y avait un comédien qui avait un problème, etc. Et on se disait, attends, comment est-ce que tu regarderas ce moment-là ? Et on prenait la caméra et on bougeait avec la caméra. Et ensuite, on disait, voilà, on va le raconter de cette manière-là avec la caméra. Et puis ensuite, il y avait tout le reste qui arrivait.
Ce qui m'avait semblé un peu téléphoné à la première vision du film me paraît plus assumé lors d'une deuxième vision. La direction d'acteur est particulièrement réussie et Imogen Poots, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, crève l'écran. Voilà. Il faut dire que tout le film s'articule autour de ses choix à elle. Alors ça n'en fait pas un grand film, mais pour un premier long métrage, donc pas avec des moyens colossaux, eh ben, il n'y a pas de grande faute et puis un récit bien tenu avec vraiment de belles images. C'est pour ça que j'avais passé cet extrait, parce qu'il met un soin particulier à faire ces images. Donc Mobile Home de Vladimir de Fontenay en salle depuis le 4 avril.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante.
Le passage de comédien derrière la caméra s'avère souvent intéressant, même si on retrouve de manière récurrente les mêmes qualités et écueils, à savoir pour le meilleur, une direction d'acteur parfaite, et pour le moins bon, un travail sur la forme appliquée mais qui manque souvent d'audace. Alors Carnivore ne déroge pas à la règle, qui n'en est pas une d'ailleurs, Mais un petit plus suscite la curiosité, car l'intérêt est double, c'est le cas de le dire. Non seulement Jérémy et Yannick Renier sont frères, demi-frères pour être précis, mais en plus ils se sont emparés d'un sujet qui peut faire écho, sans bien sûr extrapoler quoi que ce soit à leur vie privée ou du moins à leurs angoisses existentielles. Mona a un rêve, hein, celui de devenir une comédienne reconnue. Une brève séquence de répétition suggère qu'elle est promise à un avenir brillant, mais cruelle ironie de la vie, c'est Sam, sa sœur cadette, qui se fait repérer et devient rapidement une actrice de premier plan. Plus tard, sans boulot ni argent, Mona est contrainte d'emménager chez sa sœur qui, fragilisée par un tournage éprouvant, lui propose de devenir son assistante. Sam perd progressivement les pédales, aussi bien dans sa vie privée que professionnelle, et après un jour de tournage éprouvant, Sam disparaît. Une occasion pour Mona de prendre progressivement la place de sa sœur. Alors, cupidité et jalousie sont au cœur de ce polar atmosphérique qui a sans doute permis aux deux frangins d'exorciser quelques démons. La tentation d'envier celui qui a le plus de succès, en l'occurrence Jérémy, remarqué jadis par les frères Dardenne. Yannick est un comédien à la carrière, d'ailleurs, il est beaucoup plus âgé, hein, je crois qu'il a 6-7 ans de plus. Il a une carrière plus confidentielle, mais on a pu l'apercevoir dans Nue Propriété, Welcome ou récemment Patient. Alors, le scénario ne semble pas tout à fait étranger à leur parcours personnel, mais peut-être ne sont-ce là que des élucubrations à prendre avec des pincettes. Le début est néanmoins remarquable. En très peu de plans, les frangins instaurent un climat malsain sous-jacent, sans que rien ne soit explicite. Mieux, ils vont à l'essentiel, dessinant habilement les rapports très ambigus qui nourrissent les deux frangines entre bienveillance et convoitise. La suite, hélas, est plus conventionnelle. Hein. Rapidement, les zones d'ombre disparaissent et les intentions paraissent trop voyantes.
Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage ? On sait jamais que vous ayez besoin de figurants.
J'essaie de comprendre.
Et comprendre quoi ? Est-ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir ? Est-ce que ça fait à son mec ? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler, c'est ça que vous voulez comprendre ?
On va faire croire que t'as vécu des choses horribles.
Va te faire foutre.
C'est pas ce que t'avais prévu.
Alors, baignant dans une lumière très travaillée, hein, s'éloignant du naturalisme propre à beaucoup de premiers films, notamment lors de scènes nocturnes tout en clair-obscur, Carnivore ne tient pas ses promesses de départ. Les rebondissements sont convenus et la mise en scène scolaire ne parvient que très rarement à nous perturber, trouvant néanmoins un souffle lors d'un dernier quart d'heure asphyxiant à la lisière du fantastique. Alors, ce premier long métrage, honnête mais assez timide, offre néanmoins à Leila Bekhti un beau personnage ambigu qu'elle défend jusqu'au bout avec conviction. En incarnant Mona, elle apporte une nuance et une sensibilité absente du film. Alors voilà, au final, je dirais que Carnivore est un petit thriller intéressant, mais qui manque singulièrement de mordant et de chair, tout ce que le titre nous promettait. Moi, je m'attendais à un nouveau grave au début, hein. Mais bon.
Eh bien, merci Manu. On achève cette émission avec un petit film d'animation, alors sorti du passé, un film tchèque.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Bon alors, j'espère que vous aimez bien cette musique parce qu'elle dure quand même les 28 minutes. Hein. Il s'agit d'une ressortie en salle, trois petits courts-métrages qui forment un programme appelé La Révolte des Jouets. Ces trois courts-métrages réalisés en stop-motion sont tchèques et ils ont été tournés entre 1946 et 1960. C'est le troisième volet, La Révolte des Jouets, qui donne son nom à ce triptyque et c'est le plus important. Il a été réalisé par Hermina Tirlova, une pionnière de l'animation et une femme qui plus est, ce qui n'était pas courant en 1946. Et c'est surtout eh bien, une sorte de Toy Story anti-nazi. L'histoire d'un méchant officier SS qui rentre un soir dans un atelier de jouets armé de mauvaises intentions et les jouets vont se révolter contre lui et lui faire passer un mauvais quart d'heure. Alors ce qui donne du coup le charme, le cachet au film, c'est qu'il s'agit de vrais jouets animés en stop motion. Et l'animation, eh bien, pour l'époque, est quand même admirablement fluide. Il y a deux courts-métrages en noir et blanc et un en couleur. C'est plutôt à destination des tout-petits, hein. C'est muet, cela fait une demi-heure à peine. C'est donc parfaitement adapté aux enfants. Voilà, donc je vous le conseille. Et avant chaque petit court-métrage, il y a toujours une voix off qui explique ce qu'il va se passer pour que ça soit parfaitement compréhensible.
Oui, c'est à partir de 3 ans, ce film.
C'est très mignon et très joli.
Et il vaut mieux aller voir ce petit court-métrage, c'est un petit court-métrage tchèque, que le Gaston Lagaffe, dont je ne vous parlerai pas finalement.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui ?
Il n'y a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui ?
Bah quoi, qui est qui, quoi ?
Eh bien, qu'y a-t-il ?
Auriez-vous oublié que nous partons ?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine, alors peut-être pour parler de Taxi 5, mais pas forcément. Et sinon ?
À l'heure des souvenirs, un film anglais.
Eh ben si, moi je vous parlerai de Taxi 5. Allez, on y va.
Allez, c'est parti.